Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. 3h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris.
Édouard Dupenoit.
Soyez les bienvenus pour une première demi-heure consacrée à l'actualité africaine sur la radio du monde. Elle commence en fait de l'autre côté de l'Atlantique. 5 dirigeants du continent vont être reçus par le président Donald Trump. Ce n'est pas un sommet, ce n'est pas un forum, mais il y a bien des lignes communes entre tous ces pays. Le détail dans une minute. Olivier Monodji est libre. Le journaliste tchadien a pu regagner son domicile hier soir après plus de 4 mois de détention. Ses co-accusés ont également été reconnus non coupables. Plus de 30 morts désormais au Kenya. Les commémorations du sabbat matées dans le sang, la colère se fait entendre alors que les autorités évoquent des casseurs infiltrés dans les manifestations. 2 dates aussi à retenir en ce 9 juillet. Cela fait un an que Fonny Kemenge et Mamadou Biloba ont disparu en Guinée. Ces deux militants figurent du Front National pour la Défense de la Constitution. Leurs proches continuent de dénoncer un enlèvement. Les autorités de transition ont toujours nié être derrière. 14 ans aussi que le Soudan du Sud est indépendant, mais le pays fait face à un nouveau conflit particulièrement violent depuis le mois de mars. Le PAM a pu larguer de l'aide par voie aérienne. Ce sont donc une série de rencontres au format inédit qui s'ouvre aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Washington. Les chefs d'État de 5 pays africains sont dans la capitale américaine. Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le Libérien Joseph Boakai, le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le Mauritanien Mohamed Oulcher Razouani et le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo. On y attend un déjeuner de travail avec le président Trump ainsi qu'une série de rencontres bilatérales pour parler opportunités commerciales, notamment via les ressources minières ou encore sécurité maritime. Levé de rideau, Lisa Fabian.
Les chefs d'État africains sont conviés à un dialogue de haut niveau ainsi qu'à un déjeuner de travail avec le président Donald Trump. Des rencontres bilatérales devraient suivre selon des sources diplomatiques contactées par RFI en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis se disent à l'écoute des préoccupations et des priorités des nations africaines avec pour objectif de nouer des partenariats et de promouvoir l'engagement économique et l'investissement du secteur privé selon les informations transmises par un haut responsable américain. La présidence gabonaise évoque dans un communiqué la consolidation des partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'exploitation des minéraux critiques et la promotion de la paix et de la sécurité dans le golfe de Guinée. Les questions portant sur la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme ou encore le contrôle des flux migratoires pourraient également être abordées. Le Sénégal, le Gabon, le Libéria, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont pour point commun d'être des États côtiers disposant de minerais, remarque un diplomate africain joint par RFI.
Lisa Fabian, le journaliste tchadien Olivier Monodji est libre. Le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, par ailleurs correspondant de RFI, ainsi que ses co-accusés ont été reconnus non coupables hier par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Ils étaient poursuivis pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, la Russie en l'occurrence. Après plus de 4 mois en détention, Olivier Monodji a donc pu regagner son domicile hier soir. Satisfaction de son avocat qui compte tout de même interjeter appel. Maître Alain Diliam s'en explique à Nadia Ben Mahfoud.
Nous nous réjouissons du fait qu'il puisse recouvrer sa liberté et c'est le mieux à faire d'abord. Et dans un second temps, nous allons relever appel de cette décision parce que les juges ont dit qu'il a été relaxé au bénéfice du doute. Mais pour nous, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Donc nous allons relever appel de cette décision. C'est malheureux parce que dès le début de ce procès, nous avons dit que c'est des journalistes et ce qu'on les reproche rentre dans le cadre de leur activité. Et pour les journalistes aujourd'hui, il n'y a pas de peine de privative de liberté. Et malheureusement, ils ont passé injustement 4 mois en prison. Évidemment, avec ce procès, on remet encore sur la table la question de la liberté de la presse, parce qu'aujourd'hui, c'est inquiétant qu'un journaliste puisse aller en prison pour finalement être déclaré non coupable. Et donc, ça remet sur la table la question de la liberté de presse au Tchad.
Maître Alain Diliam, avocat d'Olivier Monodji. Cela fait un an aujourd'hui que 2 figures de la société civile ont disparu en Guinée. Fonny Kemenge et Mamadou Biloba, piliers du Front National pour la Défense de la Constitution, enlevés à leur domicile le 9 juillet 2024. Leurs proches y voient un kidnapping orchestré par les autorités de transition, ce que le pouvoir à Conakry a toujours démenti. Invité de la rédaction ce matin, le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains, maître Drissa Traoré. Il répond à nos questions dans 2 heures. Vous nous donnez aussi votre sentiment sur cette disparition des 2 figures de la société civile guinéenne. Avec Juan Gomez, appel sur l'actualité à 8h10, heure de Conakry. Le bilan humain, considérablement revu à la hausse au Kenya, deux jours après les manifestations de commémoration du Saba-Saba. La Commission nationale pour les droits de l'homme parle désormais de 31 morts, plus de 200 blessés selon Amnesty International cette fois. Les accusations se multiplient face aux images qui montrent des bandes de jeunes en civil aux côtés de la police. Les techniques de maintien de l'ordre sont aussi violemment critiquées face à l'usage de balles réelles ou encore de gaz lacrymogènes dans des zones très peuplées. Christina Okello.
Une grande partie des violences se sont déroulées en périphérie de Nairobi, dans des quartiers résidentiels. À Gong, l'un des épicentres, des affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux habitants. Mais des témoins rapportent aussi la présence de milices armées vues aux côtés de la police. Patrick Gattara, caricaturiste et analyste politique.
On voit des dizaines de vidéos et témoignages montrant ces bandes armées évoluer avec la police, autorisées à frapper les manifestants sous le regard des agents. L'État introduit délibérément ces éléments violents pour discréditer les mobilisations, puis accuse les manifestants de semer le chaos. Ce n'est pas vrai, c'est la police et l'État qui apportent la violence.
Des accusations graves relayées par Amnesty International, qui dénonce l'usage de balles réelles et de gaz lacrymogènes dans des zones densément peuplées. Rungu Hutton, directeur exécutif d'Amnesty Kenya.
Lorsqu'il y a des opérations policières dans des quartiers résidentiels, il faut une autre stratégie. On a vu trop de tirs à balles réelles, trop de gaz lacrymogènes dans les habitations. Et cette montée des milices, de jeunes armées qui s'en prennent aux manifestants et aux commerces, c'est illégal et ça doit cesser.
Face à ces dérives, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Il dénonce l'usage de munitions létales par les forces de l'ordre et appelle à des enquêtes rapides et transparentes pour faire toute la lumière sur les violences.
Christina Okello, j'ajoute que la Commission nationale pour les droits de l'homme parle désormais de 532 personnes arrêtées.
RFI à Djouba, 90.4 FM.
Aujourd'hui, 9 juillet, marque donc les 14 ans de l'indépendance du Soudan du Sud. Le plus jeune pays du monde en proie de nouveau depuis plusieurs mois à un violent conflit interne. La province du Haut-Nil dans le nord-est est coupée du monde. Le programme alimentaire mondial a seulement pu larguer des vivres par voie aérienne ces derniers jours. Le PAM estime que 40 000 personnes sont menacées de famine. Ce sont les affrontements dans cette province qui ont conduit, il y a 4 mois, à l'arrestation du vice-président Riek Machar. Aujourd'hui, toujours en résidence surveillée, Florence Mieto est notre correspondante à Djouba.
Les habitants de plusieurs villages du comté de Nassir dans le Haut-Nil ont à nouveau fui les bombes de l'armée gouvernementale hier mardi. Des attaques délibérées contre des zones civiles que dénonce le militant de la société civile Termanyangatwetch et qui ne manqueront pas d'aggraver la crise humanitaire, même si aucun bilan officiel n'a été communiqué. Plus de 130 000 personnes ont déjà été déplacées et privées de leurs moyens de subsistance depuis le début du conflit. Ces bombardements interviennent au lendemain de l'annonce par le Programme alimentaire mondial de premier largage d'aide alimentaire par avion dans les comtés de Nassir et Doulang, épicentre du conflit. Cela faisait plus de 4 mois que l'agence de l'ONU n'avait plus accès à la zone, même par voie aérienne. Quant à l'accès par voie fluviale, le plus économe, il reste fermé et 1500 tonnes d'aide sont toujours bloquées plus au sud, au bord du Nil. Sans une augmentation significative de l'aide, les comtés de Nassir et Doulang risquent de sombrer dans une famine généralisée, s'inquiète Marie-Hélène McGroarty, la directrice du PAM au Soudan du Sud. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Les élus locaux de 6 îles de l'océan Indien veulent illustrer que l'union fait la force. Antananarive accueille les maires malgaches donc, mais aussi comoriens, réunionnais, maorais, seychellois ou encore mauriciens. Ils sont constitués en association, la VCOI, avec une idée simple, montrer surtout aux partenaires internationaux qu'ils sont un ensemble soudé sur lequel ces partenaires peuvent s'appuyer justement, Pauline Le Troquier.
Les élus de l'océan Indien ont martelé le potentiel de coopération à travers les villes. Amdil Wahidou Soumaïla, maire de Mamoudzou à Mayotte, porte cette ambition en tant que coprésident de l'Association des villes et collectivités de l'océan Indien. Pour l'élu, cela doit permettre de capter plus facilement les financements des bailleurs de fonds dans un contexte de réduction de l'aide internationale.
Les bailleurs sont extrêmement attentifs au fait que ce soit plusieurs collectivités dans plusieurs territoires différents qui s'organisent et qui répondent aux appels à projets, que ce soit comment protéger protéger nos territoires par rapport aux montées des eaux.
Derrière cette recherche d'unité, des déséquilibres subsistent. Les opérateurs économiques malgaches sont pénalisés dans l'export de produits agricoles vers l'île Maurice ou encore la Réunion, en cause des barrières phytosanitaires et administratives jugées excessives par la partie malgache. Erignan Tia Souloufmang est maire de Majinga, ville côtière du nord de Madagascar qui dépend des échanges commerciaux avec la région. L'élu reconnaît des efforts à fournir de part et d'autre.
Pendant le passage du président Macron, déjà, on a bien discuté qu'il faut alléger un peu les normes de qualité, par exemple, que nous devons exporter aux autres îles à côté, comme Mayotte et La Réunion. Mais c'est à nous aussi de former les agriculteurs à la norme que l'Union européenne démontre.
Exposés chaque année à des cyclones de plus en plus violents, les élus de la région ont également insisté sur leur destin commun face aux conséquences du changement climatique. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et ce sont d'autres partenariats enfin qui viennent conclure ce journal. Longue transversale géographique puisqu'on part vers l'Espagne où se refermait hier un forum économique avec des délégations de 27 pays africains. Madrid qui est encore relativement discrète sur le continent, mais la politique extérieure qu'elle met en place semble fonctionner auprès des pays concernés. Et qui d'ailleurs, Diane Cambon, semble en demander davantage.
Satisfaction au terme des deux jours de ce sommet qui a permis de renforcer les relations entre l'Espagne et le continent africain. Madrid a réitéré sa volonté d'être sur place dans des secteurs dont elle domine le marché, comme les énergies renouvelables. Pour cela, l'Espagne a mis en avant Africo, un réseau de chambres de commerce, une initiative lancée par le gouvernement de l'archipel des Canaries, pour encourager les PME espagnoles à s'implanter en Afrique. Il a aussi été question d'augmenter la coopération, notamment pour contrôler les migrations illégales, en favorisant l'embauche sur place. De leur côté, les délégations africaines ont fait part de leur nécessité d'investissement de capital privé dans des infrastructures de base. Autre requête émise par les pays africains, booster le marché extérieur des entreprises africaines en Espagne, mais aussi dans le reste de l'Europe, puisque la péninsule ibérique s'érige par sa proximité géographique comme la porte d'entrée de l'Union européenne. L'Espagne, qui est en Afrique de l'Ouest désormais le cinquième client à l'exportation devant la France et les États-Unis, a été vivement invitée à augmenter aussi ses importations. Diane Cambon, Madrid, RFI.
À Madrid et sur Radio France Internationale, il est 5h42.
Afrique Matin sur RFI.
3h42 TU, le programme en quelques mots, c'est la suite de nos reportages sur les objets de pouvoir mis à profit par les dirigeants africains. Le secteur bancaire qui se libéralise difficilement en Éthiopie. Les producteurs africains de coton inquiets d'un étrange classement durabilité dans l'Union européenne. Notre rendez-vous avec le réseau La Première et une reprise acoustique tout en pureté de Ndouzangou de l'artiste comorien Elias. Voilà qui nous amènera tranquillement au prochain journal. Et donc ce troisième volet de nos reportages qui explore les objets de pouvoir que se sont attribués de puissantes personnalités africaines. On vous parlait du trône de Jean Bédel Bokassa, du mouchoir blanc d'Ahmed Sékou Touré. Voilà ce matin un accessoire presque encore plus trivial en apparence, le chasse-mouche, qui ne quittait jamais Jomo Kenyatta. Le premier président du Kenya avait toujours avec lui cet objet fait à partir d'une queue de vache. Ce chasse-mouche qui fait aussi partie de la panoplie traditionnelle des anciens, des sages chez les Kikuyu. Objet du quotidien, enfin, qu'il a utilisé pour renforcer son image de président proche du peuple. Exploration avec notre correspondante Alban Tiroir.
Mai 1963, élection générale au Kenya, Jomo Kenyatta est alors le leader de KANU, le parti en tête. Il est photographié jubilant, brandissant son chasse-mouche. Anaïs Angelo est historienne à l'Académie des sciences de l'Autriche et l'auteur d'un livre sur l'arrivée au pouvoir et la présidence de Jomo Kenyatta.
Kenyatta, il était toujours avec son chasse-mouche. C'est un objet qu'il a porté avec lui partout où il allait et que l'on retrouve aussi sur toutes les représentations de Kenyatta, que ce soit des photos, des statues. Ça fait vraiment partie de son personnage politique.
Cet objet, selon cette historienne, a permis à l'ancien président de renforcer son image d'homme proche du peuple.
Dans sa manière de gouverner, il a un rapport très personnel aux gens. Ce n'est pas quelqu'un qui investit énormément de temps, par exemple, dans les médias. Par contre, il va dans les cérémonies collectives, locales, il visite souvent les gens. Et je pense qu'il faut prendre le chasse-mouche comme quelque chose que tout le monde a, qui est quelque part assez banal, assez traditionnel, mais qui est justement un objet symbolique crédible.
Dans la culture Kikuyu, dont est originaire Jomo Kenyatta, le chasse-mouche permet d'éloigner les insectes, mais il est aussi utilisé pour saluer ou asperger de l'eau bénite lors de cérémonies. Ce sont les hommes qui s'en servent, les plus âgés de la communauté. C'est aussi cet ancrage culturel qu'a voulu montrer Kenyatta, selon James Nene, secrétaire général du Conseil des anciens Kikuyu, Nous le rencontrons dans un café de Nairobi.
Traditionnellement, le chasse-mouche permet d'établir un statut d'ancien au sein de la communauté. Aucun ancien ne sortait sans son chasse-mouche. Jomo Kenyatta respectait et suivait la culture Kikuyu. Il utilisait donc le chasse-mouche comme un moyen d'identification à sa culture et à son statut. Cela complétait son image d'ancien et d'homme d'État.
Une image qu'il a soigneusement construite dès 1938 quand il choisit de s'appeler Jomo Kenyatta, Anaïs Angelo.
Jomo Kenyatta a inventé son nom, il a inventé son personnage. C'était quelqu'un qui n'était pas nécessairement prédit pour faire de la politique, qui a commencé très jeune dans une société Kikuyu qui respecte la seniorité. Pour affirmer son autorité politique, il s'est créé un personnage de sage, d'anciens.
En plus du chasse-mouche, il adopte également un chapeau traditionnel Luo, une des plus importantes communautés au Kenya et celle dont est originaire celui qui deviendra son rival, Oginga Odinga. Albin Tiro, Nairobi, RFI.
On parlera demain de la canne de Mobutu avec notre correspondante à Kinshasa. Ces reportages, évidemment, vous les retrouvez sur notre application RFI Pure Radio. 3h46 TU.
RFI, toute l'actualité, Édouard Dupenoit.
Et juste avant le dossier Afrique Éco en Éthiopie, les grandes lignes de l'actualité internationale de ce 9 juillet. Emmanuel Macron qui poursuit sa visite d'État au Royaume-Uni. Au programme aujourd'hui, un entretien avec le Premier ministre Keir Starmer avant un sommet demain entre les deux dirigeants et une douzaine de ministres. Hier, le président français s'est exprimé devant le Parlement au palais de Westminster en appelant la France et le Royaume-Uni à travailler ensemble pour protéger l'ordre mondial hérité de 1945. À commencer par l'Ukraine, en renforçant encore les liens entre Londres et l'Union européenne. Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés pour la deuxième fois en 24 heures, hier, et cela alors que les médiateurs qatariens ont prévenu qu'il faudrait du temps pour sceller un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas lors de pourparlers indirects à Doha. L'émissaire de Washington, Steve Witkoff, espère pour sa part un accord avant la fin de la semaine sur une trêve de 60 jours. Le bilan des inondations dévastatrices au Texas, qui ont fait au moins 109 morts, bilan qui pourrait encore considérablement augmenter puisque selon les derniers chiffres, 161 personnes manquent toujours à l'appel. Il y a quasiment 129 millions d'habitants dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Et c'est en Éthiopie qu'on ouvre donc le dossier Afrique Économie. Il y a un an, Addis Abeba annonçait la libéralisation de son secteur bancaire. En clair, les établissements internationaux ont le droit d'ouvrir des filiales et des succursales sur place. Potentiellement, on se dit que les banques vont se ruer sur cette poule aux œufs d'or et cet immense marché à conquérir. Pourtant, juillet 2025, ça n'est pas le cas. Ces banques ne se sont pas précipitées, comme gagnées par une forme d'attentisme. C'est Marlène Panara, notre correspondante, qui nous l'explique.
L'annonce de l'ouverture du secteur bancaire il y a un an a sonné comme une petite révolution en Éthiopie. Pour Tegaï Teklé-Selassié, économiste et enseignant au Wesley College de Boston, ce changement était attendu.
Il était temps d'ouvrir le secteur bancaire pour que le secteur privé ait plus de liberté, que la population ait plus facilement accès aux banques, mais aussi pour stimuler la compétitivité des services bancaires.
Depuis la chute de l'empereur Haïlé Selassie en 1975 et la nationalisation des banques du pays, l'Éthiopie n'a plus jamais autorisé de banques internationales sur son sol. La loi de juin 2024 autorise donc désormais les banques étrangères à créer des filiales, à ouvrir des succursales, mais aussi à prendre des participations dans des banques locales. Pour Tsegaï Teklé-Selassié, ce changement de paradigme s'inscrit dans une politique globale d'ouverture prônée par le gouvernement.
D'autres réformes ont été lancées en ce sens. Récemment, le marché des devises a été en partie libéralisé. Il existe aussi, depuis peu, une bourse éthiopienne. Cela fait partie d'une tendance forte, dont le but est de libéraliser l'économie.
Mais un an après cette annonce, les résultats se font attendre. Jusqu'à maintenant, seule la banque kenyane KCB, qui possède des filiales au Rwanda, en Ouganda ou en Tanzanie, a engagé des discussions avec le gouvernement éthiopien. Achenafi Mulugeta attend pourtant avec impatience de pouvoir faire appel au service d'une banque étrangère. Dans le bureau de sa société de production agricole à Addis Abeba, le PDG s'explique.
J'aimerais que les banques me proposent des services qui facilitent nos opérations quotidiennes et nous rendent la vie plus facile. Je veux pouvoir me concentrer sur mon activité principale qui est de faire de l'agriculture et de la transformation. Je ne veux pas avoir à traiter des problèmes de paiement, de recettes, de dépenses. J'aimerais qu'une banque le fasse pour moi.
Mais selon Tsega et Tekle Selassie, il va falloir s'armer de patience. L'installation de banques étrangères en Éthiopie pourrait prendre encore du temps.
Certaines banques peuvent refuser d'investir le marché éthiopien à cause de l'instabilité. La proclamation a par ailleurs fixé des restrictions, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. La loi limite, par exemple, la participation des investissements étrangers dans une banque à 40%.
32 banques opèrent actuellement en Éthiopie avec un capital combiné de 2,4 milliards de dollars. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Il est 6h50 à Addis Abeba. Et l'actualité des matières premières pour parler ce matin de l'inquiétude des producteurs africains de coton. Ils écrivent une lettre ouverte aux autorités européennes parce qu'ils redoutent de voir leur accès à ce marché européen devenir très compliqué ces prochaines années. Un système de classement de la durabilité du coton le fait apparaître comme une matière peu durable pour la planète par rapport notamment aux textiles synthétiques. Classement complètement biaisé, dit l'APROCA, Marie-Pierre Olfan.
L'inquiétude partagée par le secteur est de voir les importations de fibres de coton être limitées dans l'Union européenne d'ici 2030 pour des questions de durabilité et de traçabilité. Or, la filière africaine craint de ne pas pouvoir répondre à toutes les exigences d'une éventuelle réglementation en la matière et a peur de voir son coton petit à petit délaissé. L'Union européenne s'est effectivement engagée dans une démarche pour rendre la mode et le textile plus écologiques de manière générale, mais elle a démenti que de tels objectifs existaient dans sa législation sur l'économie circulaire. Cela ne suffit pas à rassurer le secteur, d'où cette lettre ouverte au commissaire européen à l'agriculture pour défendre les spécificités du coton africain. Le coton, de manière générale, n'a pas bonne presse, car à Bruxelles se joue une guerre des lobbies. Et le lobby des fibres synthétiques sort pour l'instant vainqueur d'un classement élaboré par l'UE qui évalue l'empreinte environnementale des produits. Au vu des critères pris en compte, ce classement PEF, c'est son nom, quand il est appliqué au textile, eh bien il note beaucoup mieux les polyesters et autres fibres synthétiques que le coton ou la laine qui finit dernière du classement, un peu comme si le synthétique était meilleur pour la planète. Plusieurs organisations qui représentent les fibres naturelles ont donc décidé de s'unir et ont créé un label, Make the Label Count, autrement dit faisons en sorte que le label soit efficace, c'est le nom choisi par ses défenseurs des fibres naturelles. L'objectif est de convaincre l'UE de se baser sur une méthodologie qui soit beaucoup plus complète et qui prenne par exemple en compte l'impact d'un textile sur la pollution par microplastique. L'association cotonnière africaine a décidé de rejoindre ce collectif. Elle tient aussi à rappeler qu'elle est déjà engagée dans la création d'une filière intégrée pour que le coton qu'elle produit soit filé et tissé sur place et qu'il ne fasse plus le tour du monde avant de revenir sous forme de t-shirt. C'est ça aussi la durabilité. 95% du coton africain est aujourd'hui exporté sous forme de fibres brutes.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. L'actualité à Mayotte et à La Réunion, d'abord avec le réseau Outre-mer La Première. On commence avec un accident de la circulation qui a fauché un dépanneur remorqueur dans l'arrondissement de Saint-Paul. Journal d'Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Madame, monsieur, bonjour. Dimanche à Saint-Leu sur l'île de La Réunion, un tragique accident a coûté la vie à un dépanneur remorqueur. Cela rappelle combien ces professionnels de la route exercent un métier dangereux. Charlène, l'une des rares femmes dépanneuses de La Réunion, nous raconte son métier patient, mais sans danger. André Racoton, Dravola.
Charlène est dans le métier depuis bientôt 2 ans, mais l'accident qui a tué Johnny Dubar l'a bouleversé.
On connaissait les risques du métier. On sait qu'on travaille sur la 4 voies, qu'on travaille la nuit, qu'on peut intervenir sur des gens aussi qui sont un peu alcoolisés ou avec des stupéfiants, donc on sait à quoi s'attendre, mais c'est vrai que ça met un froid quand même.
Pourtant, dans sa société, tout est fait pour que les interventions se fassent en sécurité. Jimmy Morel, dirigeant de JM Dépannage.
Quand on achète une dépanneuse tout neuf, tout est équipé, pelle, balai, gilet, cône.
Mais sur le terrain, la vigilance et l'expérience ne sont pas à négliger.
Sur la 4 voies, en général, on essaye de rester du côté de la barrière. Donc s'il faut descendre côté passager, sangler côté passager, on fait tout au maximum du côté de la sécurité. On évite d'être du côté de la circulation. Après, on a les gilets, on a les lumières. Voilà, après, il faut regarder la circulation. Après, normalement, On a la police, la DDE, les gyrophares, donc on est assez visible.
Jimmy Morel regrette pour sa part que dans ce métier à risque, le travail de nuit n'est pas reconnu et qu'à La Réunion, les interventions dangereuses ne sont pas accompagnées de véhicules de protection.
Et le conducteur en état d'ébriété soupçonné d'avoir fauché le dépanneur en intervention dimanche soir sur la RN1 à La Réunion a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et placé en détention provisoire. Lancé il y a 4 ans, le chantier de renouvellement du parc éolien de Sainte-Suzanne à La Réunion est enfin arrivé à son terme. 9 éoliennes nouvelle génération censées mieux résister aux cyclones et produire 2 fois plus que les 37 anciennes qu'il a fallu démanteler. Antoine Garnier.
Leur mât culmine à plus de 100 mètres dans les airs. 9 éoliennes tripales de nouvelle génération équipent désormais la ferme de la Perrière à Sainte-Suzanne. Des mastodontes capables de supporter des pales de 50 mètres de long et dont la puissance 20 mégawatts doit permettre de produire l'équivalent de la consommation annuelle de 35 000 réunionnais. L'inauguration prévue ce mardi est l'aboutissement d'un chantier de plusieurs années. Il a d'abord fallu en 2021 démanteler les 37 anciennes éoliennes. Des travaux interrompus plusieurs mois en raison de la période de ponte du Gecko Verdeo. Des spécimens du reptile endémique avaient en effet élu domicile dans les coffrages des précédentes éoliennes. Total Énergie Renouvelable modernise également l'autre parc éolien de La Réunion à Sainte-Rose. 4 éoliennes de nouvelle génération sont en train d'y être installées. La production d'énergie à partir du vent reste marginale à La Réunion. Total Énergie Renouvelable mise davantage sur le solaire avec son parc de centrales photovoltaïques qui devrait prochainement atteindre une puissance de 60 mégawatts.
Antoine Garnier de Réunion La Première. Via un fonds de soutien géré par l'ONG Supernova, le groupe Bernard Ayotte GBH aidera une 50aine d'agriculteurs mahorais touchés par le cyclone Chido. Le géant de la grande distribution en Outre-mer compte financer le dispositif à hauteur d'€1 million. Les précisions d'Ursine Daniel.
Plus d'€1 million, c'est la somme qu'il prévoit d'investir pour accompagner les agriculteurs touchés par le cyclone, dont 900 000 seront alloués pour les équipements agricoles essentiels. Les acteurs locaux, comme la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le Conseil départemental et la Chambre de l'agriculture, seront également impliqués. Ils travaillent conjointement avec GBH et Supernova pour constituer un comité de pilotage. Ce comité veillera à sélectionner les projets pouvant bénéficier d'un accompagnement, une garantie pour espérer aider la filière agricole concrètement.
Ursine Daniel de Mayotte La Première, et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup, très bonne journée à vous aussi, Alex Léveillé. Notre rendez-vous enfin juste avant le journal avec les artistes RFI Talents. On vous propose de découvrir ou de redécouvrir le Comorien Elias et son power trio rock avec un nom un peu trompeur puisqu'on parle là d'une reprise acoustique de son titre Douzangou, intimiste et organique. Je vous propose de l'écouter. Douzangou, version acoustique, single d'Elias, dont vous retrouvez la production, la biographie sur rfi.fr/musique. C'est la fin de cette première demi-heure africaine réalisée par Thierry Le Saint avec, à l'écoute, peut-être Richard Ankéré depuis Bukavu dans le sud Kivu. Vous nous avez écrit sur africematin@rfi.fr. Merci pour votre fidélité. On vous lit et on vous répond. Prochaine édition du journal dans une minute sur la Radio du Monde.
Bonjour, c'est Juan Gomez. 25 organisations de défense des droits humains appellent les autorités guinéennes à révéler le sort réservé à Mamadou Biloba et Fonike Menge, un an après la disparition de ces leaders de la société civile. Comment expliquer le silence du pouvoir ?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les enseignants en Afrique sont-ils suffisamment formés et bien accompagnés dans leur métier ?
Demain,
si vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, c'est le moment de poser toutes vos questions à nos spécialistes.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.